en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Alors nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Marion et nous voulons avec lui faire un point sur son œuvre qui est déjà conséquente. Donc vous êtes philosophe et surtout aussi professeur. Donc vous avez été professeur 7 ans à Poitiers, puis 7 ans à Nanterre. Et maintenant, vous êtes depuis 1995 professeur à la Sorbonne et à Chicago. Et vous venez d'être élu à l'Académie française le 7 novembre 2008 au fauteuil occupé par Jean-Marie Lustiger. Vous venez de faire paraître en 2008 votre dernier livre, donc « Au lieu de soi, l'approche de Saint-Augustin », qui est une relecture, on peut dire, des confessions de Saint-Augustin. Et donc avec Augustin, de certaine façon, vous revenez en arrière pour mieux aller en avant, donc dans ce projet de dépassement de la métaphysique qui est le vôtre. Alors que dire de votre œuvre ? Pour schématiser, on peut sans doute diviser votre œuvre en 4 parties. Les 2 premières relevant de ce qu'on pourrait peut-être appeler les outils philosophiques. Descartes d'une part et la phénoménologie d'autre part. Descartes parce qu'effectivement vous êtes le spécialiste de Descartes et vous avez publié déjà 5 livres sur Descartes. Ontologie grise de Descartes, sur la théologie blanche de Descartes, sur le prisme métaphysique de Descartes et questions cartésiennes 1 et 2.
Et 3 à venir.
Voilà, donc ça fera 6. Donc ça, c'est la partie outil histoire de la philosophie. Et puis, deuxième outil, les livres que vous avez pu faire paraître sur la question de la phénoménologie, avec une trilogie, donc Réduction et donation 1989, Étant donné 1998 et De surcroît 2001. Et puis, deuxième grand ensemble, on peut dire le dépassement de la métaphysique et la charité. Il y a 3 livres que vous avez fait paraître. L'idole et la distance, 1977. Dieu sans l'être, 1982. Et Au-delà de soi, donc sur Augustin, 2008. Donc on pourrait ranger peut-être dans la catégorie de Dieu au-delà de l'être. Et puis, quatrième morceau, la charité et l'érotique. Et donc, Prolégomène à la charité, 1986. Et le phénomène hérétique, 2003. Donc première question pour bien essayer de comprendre l'ensemble de cette œuvre. Comment est-ce que vous définiriez votre projet philosophique et quelle est, selon vous, la question centrale autour de laquelle vous tournez depuis ces premiers livres donc, qui datent maintenant de plus de 30 ans?
Je pense que l'auteur d'une œuvre est le plus mal placé pour en voir la cohérence parce qu'il est toujours au milieu. Ou plus exactement, il est toujours poussé par les livres qui attendent d'être écrits. Et les livres qui attendent d'être écrits sont toujours la correction, le complément de ceux qui viennent de paraître. Et donc, celui qui écrit les livres est en quelque manière contraint et forcé par ceux-ci. Et donc, il les suit plus qu'il ne les commande. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question. Il est bien clair que si néanmoins je veux rétrospectivement donner une opinion qui n'est peut-être pas la meilleure et la bonne, je dirais que j'ai tenté de trouver les mots et les concepts qui, me semblait-il, manquaient à la philosophie telle que je la connaissais pour décrire des phénomènes, des événements qui eux-mêmes m'advenaient suffisamment fortement et brutalement pour que je les considère comme indiscutables. Et d'une certaine façon, on peut dire que le phénomène érotique, précisément, la question d'un affrontement, je voudrais éviter le mot expérience, d'un affrontement réel à quelque chose comme ce qu'on appelle Dieu, et 2 ou 3 autres événements de ce type, me semblaient à la fois, très jeune, indiscutables, et étrangement mal décrits, voire tus, par la philosophie, et cet écart a été sans aucun doute un moteur constant de mon travail. Il impliquait évidemment une appropriation de la tradition philosophique, une étude de ses limites et parfois une critique de ses limites, ce qui s'est fait dans mon cas à partir de la problématique de la fin de la métaphysique, telle que, de manière différente, des auteurs comme Nietzsche ou Heidegger la rendent pensable. Et d'autre part, ça implique une autre partie, cette fois-ci une partie, une part construens, et non pas destruens du travail, de tenter de décrire ces phénomènes, ou bien de les décrire au sens le plus strict du terme, dans le phénomène érotique, ou bien de voir comment ils ont été décrits par d'autres, le Saint-Augustin, et puis voir comment moi-même je pouvais dégager le lieu où ces descriptions conceptuellement prendraient place. Par exemple, en posant la question de l'horizon dans lequel les phénomènes érotiques ou la question de Dieu pouvaient se décrire, et en posant la question de savoir s'il allait de soi que cet horizon était l'horizon de l'être ou l'horizon de l'objectivité. C'est comme ça que, rétrospectivement, je verrai les choses. Mais il y a aussi un point que vous n'avez pas mentionné, vous ne pouvez pas tout dire, mais qui pour moi était capital, qui était la question de la peinture. Car la peinture aussi, ce qu'on appelle l'art en général, bien entendu, on pourrait sans doute en dire beaucoup sur la musique, etc. Enfin, prenons le cas de la peinture qui m'est plus familier. La peinture pose des problèmes à la philosophie et à ses limites. Ce qu'elle peut en dire, surtout ce qu'elle ne peut pas en dire.
Parce que j'ai cru comprendre que vous prépariez ou que vous allez faire paraître bientôt un livre sur Courbet.
Oui, je voudrais faire un petit livre sur Courbet, oui.
Voilà, alors je ne sais pas si c'est terminé. Si
c'est, non, c'est en cours. Mais...
Donc c'est, oui. Effectivement, la question de la peinture est une question qui, chez vous, ou du visible, enfin, de ce qui apparaît dans le...
Et parce que le paradoxe, c'est que la peinture devrait, en principe, ne poser aucune difficulté. Ça consiste à ajouter du visible au visible déjà là, disons naturel. Du visible non naturel à du visible naturel. Mais ce qu'on découvre, bien entendu, à l'occasion de la peinture, c'est que la peinture, c'est essentiellement une manière de gérer invisiblement le visible. Et que les peintres, ce qui les distingue, ça n'est pas, je dirais, les formes et les couleurs qu'ils utilisent, c'est l'invisible qui les organise. Et cette découverte de l'invisibilité qui travaille le visible propre à la peinture, à partir de ce moment-là, reflue sur l'ensemble de notre appréhension du visible. Et dès lors, la question de l'invisibilité devient possible, parce que l'invisibilité n'est pas négative. L'invisibilité, c'est la structure même de ce que nous voyons. C'est notre capacité à injecter du visible dans l'information visuelle qui nous permet de voir le monde. C'est-à-dire voir le monde, ça consiste à distinguer les plans, par exemple. Nous sommes là dans ce studio où j'ai le loup en face de moi. Et bien, c'est parce que la croisée de la fenêtre est distinguée par moi de l'arrière-fond qui est le Louvre que je peux voir. Donc, ce qui fait que je vois au lieu d'avoir une hallucination, c'est justement l'invisible qui organise. Alors, dans le cas d'espèce, le cas simple de la perspective. Mais on voit bien que l'invisible n'est pas le contraire du visible. Il en est la structure, la dimension. Et ces simples remarques faites à propos de la peinture, évidemment, ça déborde aussi sur d'autres questions. L'invisibilité, c'est l'invisibilité d'autrui, qui est quand même sa caractéristique fondamentale. Et du coup, quel statut donner à l'invisibilité de Dieu ? Qui n'est peut-être que la contrepartie d'une évidence trop grande.
Moi, j'ai une petite question. Alors, c'est une autre façon de poser la même question. À qui s'adresse votre œuvre ? C'est-à-dire, on peut considérer qu'un philosophe travaille effectivement sur la philosophie, donc s'adresse naturellement au philosophe. Mais on vous a vu aussi intervenir dans le débat public sur un certain nombre de sujets, en particulier le christianisme ou les questions relatives au pape, etc. À qui s'adresse votre œuvre ? Ça veut dire, est-ce que vous avez l'impression que vous vous adressez seulement aux philosophes ou que vous avez un devoir, une exigence de compréhension, de clarté à l'égard de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressés par toutes les questions que vous abordez sans nécessairement avoir tous les outils ou les concepts ou l'arrière-fond intellectuel nécessaire pour pouvoir comprendre cela. Et je le dis d'autant plus qu'effectivement, comme vous le savez, il y a, ce ne sont peut-être pas les plus importants, mais il y a toujours les philosophes visibles, médiatiques, enfin, puis d'autres qui travaillent peut-être moins, ceux qui sont visibles, et les autres qui sont plus invisibles ou qui travaillent plus que les premiers et que l'on voit moins. Donc, à qui s'adresse ? Enfin, ma question sur à qui s'adresse votre travail est aussi une question sur le travail d'adaptation, le travail d'accès aux médias et de visibilité ou d'invisibilité du philosophe dans le débat public.
Je pense que la distinction que vous faites et qui correspond à la réalité entre les intellectuels publics, comme on dit aux États-Unis, et les travailleurs de l'ombre, et cette distinction est la définition du problème et non pas le début de la réponse. J'essaie de brouiller cette distinction. Donc, pendant très longtemps, et toujours maintenant, pour l'essentiel de mon temps, je suis un travailleur de l'ombre qui fait des livres illisibles pour des professionnels de la philosophie et qui n'essaie jamais de les traduire dans le langage supposé du grand public. Si vous voulez, je pense que la philosophie publique, qui peut être indispensable, je n'en sais rien, est très dangereuse. Elle est dangereuse non seulement parce qu'elle arrive très vite à être plus publique que philosophique, elle est très dangereuse pour ceux qui la font, c'est un risque énorme qu'ils prennent, il faut un certain courage, que je n'ai pas, heureusement, parce que ce n'est pas l'intellectuel qui gouverne les médias, c'est les médias qui produisent l'intellectuel, comme pour remplir les tuyaux. Et le grand problème, c'est pas d'avoir la possibilité de dire quelque chose, c'est de dire quelque chose quand on a la possibilité de parler. C'est ça le vrai problème. Ce qu'on a à dire se consomme très vite. Et donc il y a un moment où on parle et on ne dit depuis très longtemps plus rien. La philosophie, je crois, elle devrait être indifférente à cette distinction, public restreint et public large. Parce que les philosophes sont comme les boulangers, ils ne font pas du pain pour d'autres boulangers. Ils font du pain pour les gens. Alors, j'essaie de faire du pain consommable par d'autres que des boulangers. Bien entendu, on ne peut pas parler de n'importe quoi de manière intelligible à n'importe qui. Ça, c'est un fait. La philosophie, elle est technique, comme les mathématiques sont techniques, comme la notation musicale est technique, et comme l'atelier d'un garagiste est technique. On ne peut pas faire autrement. Et donc, il faut apprendre un minimum de technique, il faut la maîtriser, sinon on n'a plus les outils pour travailler. Mais néanmoins, la philosophie, alors je reproche à certaines philosophies de ne pas franchir ce pas, la philosophie doit parler de quelque chose, elle doit décrire quelque chose. Et on peut décrire des phénomènes qui sont le pain quotidien, si je puis dire, de tout le monde. Et le philosophe doit être capable de faire ça. Donc évidemment, quand j'écris sur le phénomène érotique, quand j'écris sur le visible, quand j'écris sur connaissance de soi ou l'impossibilité de la connaissance de soi, quand j'écris sur la question de Dieu, je parle de phénomènes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été éprouvés par tout être humain. Et ceci est capital. Il faut que la philosophie soit capable de faire ça. Alors, quant à l'écho immédiat, c'est une question tout à fait superficielle. L'idée qu'on a plus d'écho, qu'un philosophe a plus d'écho parce qu'il écrit une demi-page dans un quotidien qui va lui donner en principe 500 000 lecteurs, que celui-là est plus efficace que celui qui fait un livre qui aura 3 000 exemplaires vendus, c'est une illusion. Parce que bien entendu, vos 50 000 lecteurs, d'abord, tous ne liront pas votre article, deuxièmement, tous ne le comprendront pas, troisièmement, la plupart l'oublieront, et vous avez au bout du compte 50 000 lecteurs, et vous les avez pour 2 jours, maximum, après ils oublieront. Tandis que votre livre, il peut, lui, avoir une espérance de vie énorme. En fait, le livre a beaucoup, beaucoup plus de lecteurs que l'article, quant à ce que j'en pense. Donc, c'est une illusion de parler en termes d'efficacité dans la communication. Il est bien clair qu'il y a des gens qui n'ont jamais écrit une ligne dans un journal et qui sont dans la pensée mondialement connue et depuis des siècles. Donc c'est une question superficielle. Non, le philosophe doit être capable de parler à un grand nombre parce qu'il connaît parfaitement ce que nous éprouvons tous et parce que lui, il a cet avantage, qu'il a les moyens techniques de faire voir à tout le monde ce que tout le monde a déjà vu sans le voir bien. Et donc, moi, je ne me sens absolument pas prisonnier de cette dichotomie. J'essaie de ne pas acheter ou vendre avec de la fausse monnaie.
Pour essayer de toujours brosser un peu rapidement comme ça le portrait de votre œuvre, Je voudrais l'aborder d'une autre manière, qui est celui effectivement de la question de mai 68. Dans un article, vous avez dit effectivement que vous faisiez partie d'une génération philosophique, hein, donc qui a commencé à travailler, à exister, à rentrer dans la scène philosophique et dans les études à partir de 68. Effectivement, vous étiez en 67 à Nanterre, vous étiez à la Sorbonne en 68, et vous avez intégré l'École normale en 67. Donc vous étiez vraiment pleinement dans ces événements de mai 68 qui ont bouleversé quand même beaucoup de choses. Et on retient de cette pensée 68, hein, telle qu'elle a été mis en évidence par Ferré et par Renaud, trois éléments en particulier qui sont d'une part l'idée de dépasser la philosophie, qui serait une forme d'impasse, l'idée que la mort de Dieu est une chose acquise, enfin il faut penser d'une autre manière, au-delà, enfin, et que tout est politique. Et donc tout est politique, ça veut dire que donc tout se ramène à la politique, et donc ni morale, ni la religion, ni la beauté, ni l'amour, enfin tout cela doit se rapporter à cela. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre projet philosophique, enfin, si on, là aussi avec une lucidité extérieure qui est peut-être fausse, mais enfin qui permet de voir les choses d'une autre manière, ne tend pas à réhabiliter trois choses. Un, réhabiliter la philosophie, et vous avez rappelé dans différents articles effectivement vos deux maîtres, Jean Beaufret qui a introduit Heidegger en France, Ferdinand Alquier qui était le spécialiste de Descartes, donc réhabiliter la philosophie, et vous avez travaillé avec ces gens-là, et vous avez effectivement fait beaucoup de livres, comme on l'a vu, sur Descartes. Réhabiliter la mort de Dieu, ou plutôt la penser autrement, enfin essayer de penser cette mort de Dieu comme sans doute la mort d'un concept plutôt que la mort de Dieu, et réhabiliter ce qui passe ou dépasse la politique et la philosophie, donc l'amour et la charité. Alors, est-ce que vous voyez, enfin, ou est-ce que vous pensez effectivement, ou est-ce que vous avez pensé en réaction contre cette pensée 68, ou est-ce que ces problématiques-là sont bien éloignées de votre travail ?
Les trois axes que vous indiquez peuvent parfaitement être repérés. Ce en quoi je ne me reconnaîtrai pas, c'est l'emploi du verbe réhabiliter. Moi, je n'ai rien à réhabiliter du tout. Je pense d'ailleurs que les trois caractéristiques que vous indiquez ne définissent pas mai 68. Définissent peut-être des reconstructions de mai 68, dont celle lancée par mes amis Renaud Ferry dans leur livre, leur pamphlet, La pensée 68. Mais ça, c'est leur vue de la pensée 68. Je pense que c'est un artefact, je m'en réfléchissant très bien, mais je veux dire, mai 68, ça n'a pas été une... Je l'ai vécu comme une crise, mais pas comme une destruction. En un sens, en 68 et dans les quelques années qui ont suivi, ce qui a été détruit, c'est un état de la pensée que je considérais comme un obstacle. Par exemple, dire que la philosophie a été détruite et tenue pour détruite par mai 68, c'est ce qu'on appelait à l'époque le structuralisme qui pouvait dire cela. Alors on fait pour faire plusieurs remarques. Le structuralisme, c'était une des formes du positivisme qui succédait, disons, ou qui prenait place à côté du marxisme élémentaire, du positivisme scientiste classique, etc. Comme en ce moment, les sciences cognitives, par exemple, comme on dit en un seul mot, avec un certain lien avec la philosophie analytique, ont pris la place du structuralisme pour dire ce que toutes ces philosophies disent, à savoir, il n'y a pas de philosophie. Bon. Et d'une certaine manière, en mai 68, ça a été aussi la crise de cela, sous le nom, disons, de postmodernité. Ce qu'on a appelé la postmodernité, c'est la crise de ce type de rationalité, disons, positiviste. Et mai 68 a été profondément anti-positiviste. Même l'usage de la psychanalyse, Nietzsche, bien entendu, etc., critique de la technologie. Bon. Et donc, j'ai considéré cet aspect-là comme la critique d'une philosophie de l'établissement, compromis entre l'humanisme très classique et vaguement idéaliste, le positivisme scientiste, compromis avec le marxisme, etc., etc. Donc c'est ça qui a été pour une part, à bas. Je m'en réjouissais beaucoup. Ça permettait de réouvrir des questions centrale de la philosophie, comme la question de la fin de la métaphysique, dont il était assez scandaleux qu'on y fasse point face. De la même manière, la question de Dieu est une question qui a été réouverte par le fait qu'on pose le problème de la mort de Dieu. Dès lors que, par exemple, en 68, tout le monde s'est mis à travailler sur Nietzsche et l'exégèse de Nietzsche, qui en l'occurrence était d'abord celle de Heidegger. Sitôt qu'on s'intéresse à lire les textes de Nietzsche sur la mort de Dieu, on s'aperçoit que la mort de Dieu, c'est une autre manière de poser la question de Dieu. Mon travail dans l'idéologie de l'existence consistait justement à faire cela. Donc, c'était une possibilité. Poser la question de la mort de Dieu, c'est réouvrir la question de Dieu. Poser la question de la fin de la métaphysique, c'est réouvrir la question de la définition de la philosophie. Et donc, prenons le dernier point, tout est politique. Et cette formule, vous savez, elle n'est pas de mai 68, elle est de Maurras, elle est de Lénine. Je dirais au contraire que mai 68, ça a été concrètement la thèse que tout n'est pas politique. La politique, par exemple, est elle-même dépendante de la pulsion, du désir, de la jouissance, etc. Et qu'il faut diagnostiquer la politique elle-même. Pour moi, 68, c'était beaucoup plus ça que l'inverse. C'était une manière de dire, de rompre en fait avec le dénominateur commun de tous les problèmes et politiques, qui était le point d'accord de la droite et de la gauche. 68, ça a été au contraire une relativisation assez fondamentale de la question de la prise du pouvoir par des instances liées à la psychiatrie, à la psychanalyse, à l'antipsychiatrie, l'antipsychanalyse, le désir, etc. Donc l'idée, par exemple, d'opposer l'érotique au politique, de dire que la question de l'amour, pour employer un autre langage, que la question de l'amour est irréductible à la question de la justice, qui sont de fait des thèmes que j'ai privilégiés, ceci c'est un effet de la crise intellectuelle et culturelle provoquée par mai 68. Donc moi, je ne me suis pas senti, au moment de mai 68, provoqué à résister, à réhabiliter, à répondre. Je me suis senti convoqué par une crise à la possibilité de ou bien faire mienne des questions, pas les réponses, les questions, ou bien à rendre audibles les questions que je me posais et qui, jusqu'à ce moment-là, me semblaient tout à fait inaudibles par mes prochains.
Oui, donc il y a un effet de danger salutaire. C'est ça. Enfin, vous considérez mai 68, vous qui l'avez vécu de près, comme une crise salutaire, comme quelque chose qui a secoué à la fois l'institution existante et à la fois de chercher une autre voie pour éviter de tomber dans les travers, entre guillemets, de mai 68 tel que ceci.
Mais je veux dire, ce qu'on appelle mai 68 dans l'histoire immédiate, c'est l'ensemble des réactions des différents corps constitués ou décomposés, des différentes idéologies qui étaient en place à ce petit tremblement de terre, à cette crise, cette perte de repères. Donc, vous avez un certain nombre de réponses, dont la plupart sont réactionnaires au sens large, la communiste n'étant pas moins réactionnaire que celle des réactionnaires. Mais ceci n'est pas ce qui s'est produit en 68. Ce qui s'est produit en 68, c'est la possibilité de poser autrement certaines questions, de poser de nouvelles questions. Donc pour moi, 68, c'est une période qui a duré longtemps, qui a duré jusqu'à l'époque des dissidents, dans les années 80, à l'époque des nouveaux philosophes, dans la fin des années 70, toutes choses auxquelles j'ai été directement mêlé. Et pour moi, 68, c'est la rencontre de Clavel, de Danielou et de Frossard. Pour moi, ça représente assez bien l'effet positif du point de vue, disons, de l'Église catholique. Ça, c'est exactement l'effet 68, qui n'a rien à voir avec les reconstitutions qu'on a bien le droit de faire et les réponses que chacun fait à cette crise. Une crise est toujours salutaire. Une crise peut toujours être salutaire parce qu'elle interdit de continuer à parler à côté des choses, à décrire les choses qui ne sont pas et à ne pas comprendre les choses qui sont. Donc la crise interdit cet aveuglement volontaire. Donc en ce sens, elle peut toujours. Toute la question de la crise est de savoir ce qu'on y fait. Alors, la chance pour les gens qui n'étaient quand même pas très vieux à l'époque, c'est que nous n'avions pas de passé à défendre, en fait. Donc, on n'a pas tenté de répondre. On a tenté de s'approprier les questions. Et je pense que ça a été une chance pour les gens de mon âge, parce qu'ils ont tout de suite ils ont eu l'occasion de prendre des positions, d'essayer de trouver des positions, de dire quelque chose, ce qui n'est pas le cas tous les 10 ans. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont arrivés avant nous, mes étudiants par exemple, qui passent leur temps à répondre à des réponses. et qui s'inscrivent dans une tradition et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de territoire propre. Nous avons eu cette chance extraordinaire qu'on avait l'impression qu'il y avait des questions qui étaient les nôtres.
On va observer une petite pause et nous reprenons notre entretien avec Jean-Luc Marion.
Révisez vos connaissances sur Canal Académie avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Académie.
Jean-Luc Marion, donc nous reprenons, nous continuons notre entretien. Nous avons fait dans une première partie un panorama un peu général de votre œuvre qui maintenant s'étale sur plus de 30 ans. Et je voudrais reprendre la question de la génération et la question de mai 68. Tous les gens de votre génération se sont pour partie appuyés sur un ensemble de maîtres pour réoccuper le territoire, pour occuper le territoire, pour reformuler ou pour formuler autrement des questions nouvelles. Je pense en particulier au retour de Kant, enfin, ce qui était le cas avec Renaud et Ferry, à Descartes, que vous avez vous-même, avec Jean-Robert Ramogat, que vous avez rencontré en 67, repris. Tocqueville, qui a effectivement été remis au goût du jour ou réapproprié à la fois par Pierre Manent et puis par Marcel Gaucher. Et puis Lévinas, qui a connu son moment, enfin le moment Lévinas qui est, disons, des années 80. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que cette génération-là à laquelle vous appartenez s'est appuyée sur ses maîtres pour reposer les questions ou d'autres questions, et lesquelles, d'une part, et puis, deuxièmement, pourquoi Lévinas, parce qu'on parle de Lévinas, est pour vous un personnage, une figure, une pensée aussi importante?
Bon, je crois que quand il y a une crise intellectuelle, il y a très naturellement une redéfinition de la hiérarchie. Donc ceux qui sont reconnus comme les maîtres vers lesquels refluent les foules, si je puis dire, ne sont plus les mêmes. Et c'est tout à fait clair que 68 avait fait une certaine coupure. Moi, j'ai bien senti qu'il y avait des gens qui d'un seul coup glissaient, pas dans l'oubli, dans l'inappropriation à la situation, si je puis dire. Et puis d'autres qui tenaient, ou qui apparaissaient pour la première fois, qui prenaient de l'importance. Et il faut bien comprendre que, là vous avez parlé d'Alquier et de Beaufray, qui de fait se sont trouvés pour moi des instructeurs, au sens le plus fort du terme. Mais ne pas oublier que des gens comme Derrida, comme Foucault, comme Deleuze, ne sont pas les auteurs de mai 68. C'est la révolution qui s'est faite culturelle, si je puis dire, qui s'appelle en 68, qui d'une certaine manière les a qualifiés. Parce que c'était eux qui comprenaient ces questions, c'était leur concept qui était utilisé, détourné parfois, peu importe. Mais enfin, c'était cela qui permettait qui a permis à beaucoup de gens de dire ce qu'ils avaient vu. Donc il y a des gens qui avaient commencé à écrire avant et qui d'un seul coup sont devenus pertinents. Donc c'est le cas de Foucault, c'est le cas de Derrida. Je pense qu'Althusser, au contraire, a été, en quelque manière, je pense, fermé par 68. Et il était beaucoup plus en phase avec ce qui précédait qu'avec ce qui a suivi. Bon, c'est vrai pour Deleuze, pour Foucault, pour Derrida, et d'une autre manière pour des gens plus âgés, mais dont le travail était resté à la fois marginal et reconnu, mais salué de loin. Prenons, il y a des noms comme celui de Lévinas que vous avez évoqué. Il y a celui tout à fait parallèle de Michel Henry, hein, puisqu'ils soutiennent leur thèse l'un et l'autre, Les Sens de manifestation et Totalité infinie, l'un en 62, l'autre en 63. C'est pareil. Et d'un seul coup, après coup, ces gens-là deviennent des gens qui résistent. Alors, attardons-nous sur ce cas-là. Ce que partagent Lévinas et Michel Henry, Emmanuel Lévinas et Michel Henry, fut d'abord d'être les continuateurs réels de la plus grande école de philosophie du siècle, qui est la phénoménologie. C'est-à-dire d'être des interprètes, des lecteurs, parmi les premiers et les meilleurs, de Husserl, de Heidegger, et des gens qui le lisaient d'une manière suffisamment profonde, libre, et si je puis dire, simple. Comme dans une partie d'échecs, continuer la partie, c'est-à-dire bouger les pions. Alors, ils n'ont pas les mêmes fins de partie, si je puis dire, mais ils jouent la même partie que ces gens-là. Et ils ont continué à jouer la partie de la phénoménologie. Et donc, d'un seul coup, ils sont devenus des grands maîtres au sens d'échecs. C'est-à-dire des gens qui peuvent vous apprendre à jouer aux échecs. Donc, nous avons, nous sommes plusieurs à avoir essayé d'avoir des masterclass avec Lévinas et avec Ricoeur, bien sûr. Et puis Michel Henry et quelques autres. Mais à entrer dans ce jeu-là, parce qu'ils savaient jouer. Et ils portaient, c'est pour ça qu'ils sont grands, ils portaient évidemment plus qu'eux-mêmes. Ils portaient non seulement leur thèse personnelle, penser l'intentionnalité comme l'intentionnalité qui vient du visage de l'autre, penser mettre en cause l'intentionnalité comme intentionnalité d'objet pour parler de l'auto-affection de la chair, bon, ce sont leurs thèses à eux. Mais ces thèses elles-mêmes, elles sont des variations qu'on peut estimer très fructueuses et peut-être géniales sur des possibilités qui étaient en place dans la phénoménologie antérieure, ce qui permet aussi à ceux qui apprennent à jouer comme eux d'introduire eux-mêmes leurs propres coups dans la partie d'échecs. Ce que j'essayais de faire avec, en parlant de la donation, etc. Dans ma génération, d'autres ont essayé de faire la même chose. Et donc, j'ai découvert à l'usage, et à l'usage de la crise de la philosophie, que l'un des outils pour continuer à faire la philosophie, c'était la phénoménologie. Je n'ai jamais dit que c'était le seul. Je pense que c'est le plus puissant, le plus cohérent, et celui qui a le plus d'avenir. D'autres ont fait le choix de la tradition dite analytique, wittgensteinienne ou pré- ou post-wittgensteinienne, peu importe. Bon, moi, j'ai fait celui-là. Bon, ça, on verra bien ce qui est le plus efficace. À mon avis, on commence à le voir. Mais peu importe. Le problème, c'était de voir les outils qui étaient disponibles. Et donc, Lévinas avait raison de dire Lévinas. Vous avez raison de dire que l'histoire de la philosophie aussi est décisive. Parce que l'histoire de la philosophie, d'une part, toujours intéressant de comprendre comment d'autres ont réagi aux questions qui se posaient et qui étaient à l'époque, qui semblaient des questions inouïes, et de voir comment ils ont joué. L'histoire de la philosophie est une recherche de la vérité, mais c'est aussi une auto-explication de soi-même à l'occasion d'un autre philosophe. Et l'histoire de la philosophie est une école fondamentale. Donc, le fait d'avoir depuis 40 ans, l'histoire de la philosophie en France soit quand même remontée à un très haut niveau, est une très bonne chose.
Parce que Lévinas, on a l'impression qu'il a fait deux ou trois choses dans le sillage duquel vous vous situez. Un, débarrasser de cette façon Dieu de la question de l'être. Deuxièmement, poser la question de Dieu, ou de ce Dieu au-delà de Dieu. Enfin, et troisièmement, la question du sujet.
Oui. Oui, oui. Alors, et non.
Est-ce que c'est ça les trois éléments que vous avez, vous, rejoué autrement,
enfin... Alors, je vais dire non, d'abord. Hein. Non, parce que Dieu soit libre de l'horizon de l'être. Enfin, moi, je n'ai pas eu besoin de Lévinas pour m'en apercevoir. Il suffit d'abord de réfléchir et ensuite de s'étonner, au contraire, que Dieu puisse être dans un horizon, et en particulier celui de l'être, ce qui n'est pas du tout de soi. Et d'autre part, il suffit de lire un peu de théologie sérieuse et on voit tout de suite le point. Non, ce qui était intéressant, c'est les moyens par lesquels Lévinas arrivait à le dire. C'est-à-dire, Lévinas était l'un des très rares, au contraire de beaucoup de théologiens chrétiens, l'immense majorité des théologiens chrétiens, à considérer que la réouverture de la question de l'être par Heidegger n'était pas la chance de refaire un thomisme phénoménologique, mais était au contraire un très grand danger pour la question de Dieu. Ça me semblait... Ça, c'est très original, ça, c'est très fort. Et de ne pas tomber dans le piège dans lequel, malheureusement, beaucoup sont tombés. Je ne dirai pas les noms par pure charité chrétienne, mais quand même, c'est étonnant de voir comment les pièges les plus gros sont ceux qui fonctionnent le mieux. Deuxièmement, Lévinas est aussi quelqu'un qui, bien entendu, pose la question de Dieu, mais c'est aussi quelqu'un qui fait entrer de plein droit dans la philosophie la question d'autrui. Pas oublier que la question d'autrui, ou bien la philosophie classique n'en parlait pas, Descartes, d'une certaine manière, n'en parle jamais. Ou alors, quand elle en parle, elle passe tout de suite à la question politique. Au XVIIIe siècle, Spinoza, bon, elle fait une théorie politique, mais une théorie politique, ce n'est pas la question d'autrui, c'est beaucoup plus facile. C'est la question du pouvoir, la question de la collectivité. Ce n'est pas la question de savoir est-ce que j'ai accès à l'autre moi-même. Et si je n'ai pas accès, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bon, cette question... Elle était, quand elle était abordée par Husserl, par exemple, ou par le néo-kantisme, jusqu'à Sartre et Merleau-Ponty, c'était toujours la fameuse incommunicabilité des consciences, aporie de l'intersubjectivité, etc. Bon, Lévinas, c'est celui qui a repris la question. C'est une avancée absolument prodigieuse. Et finalement, tout le monde s'y est rué, on a un peu dévalué la chose, mais considérons, on dit toujours que la philosophie se répète, etc., que nenni, elle ne se répète pas. Lévinas, il a quand même ouvert un nouveau champ, de la même manière que Michel Henry avec la question de la chair et de l'auto-affection. Donc, c'est ça qui est décisif. La question du sujet, il n'a pas ouvert la question du sujet, il l'a définitivement déplacée. C'est-à-dire, il a expliqué pourquoi je est un autre, pourquoi je ne suis jamais au lieu du soi tant que je reste en moi, c'est à cause de ce qu'il appelle l'immémorial, etc. Bon, et ce décalage originaire, que le soi ne soit jamais identité à soi, mais toujours décalage originaire, et donc que je sois celui qui se définit par le fait qu'il ne sait pas qui il est, et que ceci soit la manière d'être correcte, bon, c'est Lévinas qui l'a montré le plus nettement. Donc, c'est ces façons de déconstruire, de dépasser les apories habituelles qui fait la grandeur de Lévinas. Et pourquoi c'est toujours une œuvre qui a un potentiel de développement considérable. Mmh.
Mais on voit bien que dans cette génération-là, avec Lévinas pour partie, la question de Dieu se pose autrement. Toujours pour voir ceux que vous avez côtoyés, effectivement, Benny Lévy, par exemple, qui était à l'école normale en 65, lui, donc, plutôt révolutionnaire, secrétaire de Sartre, etc., termine sa vie enfin, sur une question religieuse orthodoxe, enfin, pour le dire comme ça. Quelqu'un comme Jean-Louis Chrétien, donc, qui est à la fois philosophe, phénoménologue, et que nous avons reçu ici, pose aussi cette question-là. Michel Henry, dont vous avez parlé. Comment est-ce que vous voyez cette question de Dieu posée par la génération qui est effectivement la vôtre, d'une part? Et deuxièmement, comment est-ce que vous voyez ceux qui, par exemple, Comte Sponville, enfin, ou des gens comme Michel Onfray, par exemple, aujourd'hui, comment vous voyez cette question de Dieu posée par les philosophes, qu'ils soient visibles ou non visibles, enfin, aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il faut quand même faire des distinctions. Je ne pense pas que Benny Lévy, que je n'ai pas connu, soit un exemple d'une position de la question de Dieu. Je pense que ce qu'il a trouvé à la fin, ça n'est pas la question de Dieu, c'est la question, qui a peut-être toujours été sa question, la question de l'identification, de l'auto-identification du penseur révolutionnaire. Bon, il a été successivement, disons, sartrien, maoïste, et puis juif orthodoxe. Bon, mais parce que c'est la question de Dieu, je n'en suis pas sûr. De la même manière que je ne pense pas que quand Badiou a écrit son livre, qui à mon avis n'est pas prodigieusement intéressant, ni surtout original sur saint Paul, que ça n'implique en aucune manière que la question de Dieu se soit posée. C'est plutôt des récupérations de la question de Dieu pour pourquoi bah pour maintenir une certaine figure de la subjectivité sous la mode de l'engagement politique classique, très daté à mon avis, très 1920-1930. Bon, Onfray ou Comte Sponville ou Luc Ferry, à des niveaux différents. Je pense qu'il ne pose pas la question de Dieu. Je pense qu'il la ferme. Il ferme la question de Dieu. Il considère que la question de Dieu est une opinion. Donc, il y a des gens qui croient au ciel, puis d'autres qui n'y croient pas. Mais enfin, tout le monde a une morale. Bon, on discute sur la morale, finalement. Je pense que c'est une position très classique, qui est un refus poli, bien élevé, et parfois mal élevé, dans le cas d'Onfray, de ne pas poser la question de Dieu. Donc, là aussi, c'est très classique. Il y a des gens qui posent la question de Dieu, et d'ailleurs, ils ne posent pas la question de Dieu. Ils s'étonnent plutôt qu'on puisse ne pas se poser cette question. C'est un peu différent. C'est-à-dire, si Dieu, alors. Et alors, ceci vaut, si Dieu existe, alors exister pour lui doit avoir un sens très spécial. Si même Dieu est une question, alors la notion de question a un sens spécial dans ce cas-là. Par exemple, s'il y a une question de Dieu, le pas décisif et intelligent, c'est de dire que s'il y a une question de Dieu, alors ça n'est pas une question que nous posons à Dieu, c'est une question que Dieu pose à celui qui se la pose. Bon, ce retournement-là est décisif. Si Dieu, alors sans condition. Et donc, ce n'est pas moi qui pose la question. Là, disons, il y a une forme d'athéisme croyant qui consiste à dire que nous posons la question de Dieu et nous y répondons. Et puis alors, dans certains cas, le jury donne à Dieu un quitus, il existe, on croit en lui. Et puis dans d'autres cas, le jury dit, après délibération et en toute impartialité, nous sommes au regret de vous dire que nous ne pensons pas que vous existez et nous ne sommes pas tenus de croire en vous. C'est une vision charmante, désuète, ridicule, totalement inappropriée, majoritaire. En un Brassens, Comte-Sponville et Ferry sont dans cette ligne. Nietzsche ne l'était pas. Nietzsche, c'est autre chose. Parce que Nietzsche, lui, il voit que la question du divin et des dieux se pose, d'autant plus que Dieu est mort. Donc, la vraie question de Dieu, c'est la question, est-ce que Dieu pose une question ? Et à qui ? Et dans quels termes ? Bon, ça, je pense que c'est le point commun de beaucoup de gens sérieux actuellement. Et bien entendu, il y a beaucoup plus de piété. Le questionner, c'est la piété de la pensée. Il y a beaucoup plus de piété dans la prise au sérieux de la question de Dieu que dans le fait de se concéder à soi-même de pouvoir y répondre. Je pense qu'il y a un espèce d'athéisme confortable, un athéisme de curé de village du 18e ou du 19e, confortable, qui est aussi désuet que les démonstrations tranquilles de l'existence de Dieu de l'apologétique classique, qui sont des manières d'évacuer la question.
De reléguer la question sur l'opinion.
Oui, et puis de faire comme si la question de Dieu était une question comme le plan d'investissement du matériel, des lignes de RER dans la région parisienne. Bon, voilà une question, est-ce que nous pouvons y répondre ? Quelqu'un a-t-il des opinions là-dessus ? Ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ben, c'est pas ainsi que la question de Dieu se pose. Que les gens aient des opinions positives ou négatives, divergentes ou convergentes sur Dieu, ça permet de les définir. C'est une partie de leur identité culturelle, mais ça n'a aucune pertinence sur la question de Dieu. Tant qu'on en est là, la question de Dieu n'est même pas ouverte. Les gens croient qu'ils croient en Dieu ou croient qu'ils ne croient pas en Dieu, alors qu'ils n'ont aucune idée. On peut passer sa vie sans avoir aucune idée des choses les plus évidentes, les plus claires et les plus simples. Il y a des gens qui passent leur vie sans aimer personne, jamais. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a des gens peut-être qui passent leur vie sans jamais souffrir. C'est bien possible. Et donc, on peut parler tant qu'on veut. Donc, la question de Dieu est une question trop sérieuse pour être laissée aux réponses, si je peux exprimer ainsi.
Oui, donc votre idée, c'est qu'effectivement, il y a soit ceux qui s'accaparent Dieu et qui donc le définissent et donc l'idolâtrent au sens de l'idole, soit ceux qui l'évacuent, considérant que c'est une opinion. Donc, ni...
Non, si vous voulez, je pense que les gens qui ont une opinion arrêtée sur Dieu, positive ou négative, qui savent de quoi ils parlent, sont idolâtres. Et que ce n'est pas du tout là une manière de compromettre, par exemple, le fait que je sois croyant, ou, etc. C'est une manière de dire qu'être croyant, c'est considérer que Dieu m'envisage. Exactement comme aimer quelqu'un, ça consiste à penser que son regard sur moi est largement aussi important pour moi que le regard que je porte sur lui. Et que donc, c'est lui qui mène le jeu. Et évidemment, quand on connaît quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, c'est justement la personne sur laquelle on a le moins d'opinions tout à fait tranchées. On le connaît trop bien pour penser qu'on le connaît. C'est justement pour cela qu'on a un lien privilégié avec lui. Donc, l'idée Dieu, c'est évidemment la personne sur laquelle il est plus difficile d'avoir des opinions très tranchées. Et donc, il y a quelque chose de risible dans une trop grande certitude sur ce que Dieu n'est pas ou qu'il n'est pas, etc. Ça n'est pas sérieux.
Nous allons observer une petite pause et reprendrons juste après notre entretien avec Jean-Luc Marion.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Donc Jean-Luc Marion, nous nous retrouvons pour cette troisième partie. Nous étions restés sur la question de Dieu. Et alors, si j'ai bien compris, votre idée, c'est effectivement de dénoncer l'idolâtrie, mais considérant que l'idolâtrie, c'est à la fois ceux qui refusent Dieu ou qui refusent une certaine idée de Dieu qui est une idée qui elle-même ne correspond pas à l'au-delà de Dieu, enfin à ce que Dieu est au-delà de l'idée qu'on s'en fait, et en même temps de dénoncer une idolâtrie, disons, de croyants, enfin de ceux qui enferment leur croyance dans une certaine conception, une certaine idée de Dieu.
Oui, ce que je dis, après tout, d'une banalité sans nom. En théologie, ça consiste à dire que Dieu est au-delà de l'affirmation et de la négation, mais non pas seulement au-delà de l'affirmation, mais au-delà de la négation elle-même. C'est ce qui veut dire en français, en bon français, que de Dieu, on ne peut ni dire quelque chose ou dire non quelque chose. C'est-à-dire qu'il est au-delà de la prédication. Dieu n'est pas quelque chose à propos de quoi on dit quelque chose. D'ailleurs, mon prochain n'est pas quelqu'un à propos de quoi je dis quelque chose. Quand je parle à quelqu'un, justement, je ne dis pas quelque chose à propos de lui. Si je dis quelque chose à propos de celui qui est en face de moi, c'est à un tiers que je le dis. Ou alors, ce n'est pas à lui que je parle. C'est une manière d'ailleurs de l'humilier, de le décrire devant lui-même. Quand on parle à quelqu'un, on ne dit pas quelque chose sur ce quelqu'un. De même pour Dieu. Alors que votre quelque chose soit une négation, une affirmation, ne change pas grand-chose à l'affaire. Quand vous parlez à Dieu, c'est comme vous êtes poli. C'est comme quand vous parlez à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un. Vous ne parlez pas sur quelqu'un. Même quand on rencontre le président de la République, on ne vient pas lui dire « Monsieur le président de la République, je vous accorde que vous existez, j'ai bien réfléchi, je peux vous dire que vous existez. Je peux même vous dire votre essence. » Ce n'est pas comme ça qu'on se trouve. Dieu serait le seul qu'on traiterait ainsi. C'est grotesque. Je veux dire, l'idolâtrie est une tendance à objectiver les étangs et qui va jusqu'à Dieu. Et c'est là que c'est le plus insupportable. C'est pourquoi le deuxième commandement le dit.
Mais ça veut dire que ce que vous dites là, d'une certaine façon, c'est le dépassement de la métaphysique telle que...
Bien, le problème de la métaphysique...
Tel que vous l'envisagez.
C'est l'idée que... Bien entendu, mais la métaphysique a mis du temps. Puis à un moment... elle s'est mise à produire des preuves de l'existence de Dieu. À partir du moment où on produit des preuves de l'existence de Dieu, et j'allais dire surtout si elles sont convaincantes, parce que ce sont quand même des gens remarquables, ils ont fait des preuves, il y en a au moins une, qui est suffisamment convaincante pour qu'on n'ait pas fini de la réfuter 3 siècles et demi après. L'argument déontologique. Ces preuves sont sûrement excellentes. Mais le problème est de savoir si à partir du moment où on fait des preuves à propos de Dieu, ou bien, si on fait une théodicée, c'est-à-dire mot à mot, une justification de Dieu, on n'a pas cessé de parler de Dieu pour une raison extrêmement simple. C'est que Dieu devient ce dont on parle. Alors, est-ce que ça a un sens de dire que Dieu est ce que l'on définit, ce dont on démontre l'existence à partir de l'essence, ce qu'on justifie ou qu'on accuse, enfin, qui parle ? Où étais-tu quand j'ai établi le monde ? Qui parle ? Celui qui parle, c'est lui qui est Dieu. C'est pas ce dont il parle. Donc et à ce moment-là, la mort de Dieu est, si je puis dire, incluse dans la justification de l'essence de l'essence et de l'existence de Dieu. En fait, on ne parle plus de Dieu. Alors, on en parle. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est en gros au moment où on commence à parler de preuves de l'existence de Dieu que l'on nomme comme un courant philosophique l'athéisme. C'est contemporain. Fin du 16e, début du 17e, c'est contemporain. Et c'est tout à fait normal. De la même manière que c'est quand le principe de raison suffisante est supposé gouverner tout ce qui est, tout ce qui est doit avoir une raison ou une cause, c'est à ce moment-là qu'on commence la critique des miracles. Parce que le miracle est par définition une exception au principe de raison suffisante. Et on crée la notion même de miracle, qui n'est pas une notion biblique. Donc il est évident qu'il y a un moment où l'histoire de la rationalité... Dans les figures de la rationalité, il y a des figures de la rationalité qui produisent des effets et des effets d'exclusion, qui sont à la mesure des effets d'inclusion, bien entendu. Ce n'est pas un problème dénoncer un péché originaire dans la pensée. Ça a été fait tellement souvent que c'est ridicule. Non, il y a un moment où le fait même de faire des preuves de l'existence de Dieu fait qu'on ne parle plus de ce que, par exemple dans la Bible, d'autres religions, on entendait par Dieu.
Donc, cette dénonciation qui est la vôtre, du concept de Dieu, c'est-à-dire que ce que vous dites...
Je ne dénonce pas, je décris. Je ne dénonce pas. Dis, l'athéisme repose sur une idolâtrie conceptuelle négative, de la même manière que le théisme, dans ses preuves, repose sur une idolâtrie conceptuelle positive. Formellement, ça ne fait aucune différence. Je pense que c'est pour ça que c'est convaincant, parce que je ne dénonce pas, je ne dis pas que c'est mal. Je pense que c'est inévitable à partir du moment où on pense que Dieu tombe sous le concept et dans l'horizon de l'être, que ça finisse comme ça.
Enfin, le grand débat autour de votre travail, c'est de se dire effectivement quel est l'avantage ou quelle est la portée de cette décontamination de Dieu, enfin de l'être.
On peut répondre.
Par Dieu.
On peut répondre.
Enfin, Dieu débarrassé effectivement de toutes ces problématiques de l'être.
Pas de toute la problématique de l'être. La problématique de l'être étant une problématique dérivée parmi la hiérarchie des noms divins. Alors on peut dire que ma position est une position absolument traditionnelle. C'est vraiment de la théologie mystique tout à fait classique. Il y a un moment où l'ordre des noms divins a changé. Bon, c'est ça, à peu près Saint Thomas et quelques autres. Bon, puis après, c'était considéré comme acquis. Bon, puis ça ne l'est plus de nos jours. Et alors, revenons à Lévinas. Lévinas est quelqu'un qui remet les noms humains dans un autre ordre où l'être n'est pas le premier. Et on peut se demander si la question de Dieu, par exemple, ne peut pas être posée comme nous avons tendance actuellement à poser à nouveau la question d'autrui. Le problème avec autrui, ce n'est pas de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. S'il est ou s'il n'est pas. D'une certaine manière, c'est indifférent. Mon rapport à autrui n'est pas gouverné par l'être d'autrui. Un autrui qui n'existe pas peut être absolument proche de moi et me rendre ma propre existence possible. De multiples façons. Je ne lance pas dans la description, c'est évident quand on y songe. Et le fait qu'un autrui soit, que je sois sûr de son existence et que même je puisse dire quelque chose sur sa définition, sa quasi-essence, ce n'est pas du tout l'indice que j'ai un rapport privilégié avec lui. C'est peut-être au contraire, c'est mon ennemi, c'est mon rival, je le hais, etc., etc. Je ne veux pas le voir. Donc la question de l'être est ici tout à fait secondaire. On peut, d'une certaine manière, dire que mon rapport à autrui se fait sans l'être. Parce que tout ce qui relève de l'être et de son objectivation n'est pas ce qui est l'enjeu. Donc, est-ce que là, on perd quelque chose ? Bah, d'une certaine manière, non, on entre dans la sphère d'autrui. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce qui est important, c'est de savoir si les autres sont là, s'ils viennent faire leur travail, s'ils existent là comme il faut, s'ils sont morts, s'ils ne sont pas morts, etc. Bon, c'est important. Mais à ce moment-là, c'était le rapport avec la collectivité politique, avec la société économique, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le rapport avec autrui. Le rapport avec autrui ne passe pas par les catégories de l'être.
Et donc, vous voulez dire que la question de Dieu, enfin, ou le rapport alors, que l'on
le
a
problème
à Dieu,
est de savoir si
passe par la question de l'autrui.
Non,
c'est le grand autrui, c'est ça ? Enfin,
le fait que...
C'est l'altérité...
Quel est le plus grand commandement de la loi ? C'est tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras le prochain. Comme toi-même, ces deux commandements n'en font qu'un. C'est clair. Le rapport à Dieu, c'est le rapport de l'aimer, et le rapport à autrui, c'est le rapport de l'aimer, et c'est la même chose. Bon. D'une certaine manière, si vous lisez Lévinas, ceci devient évident. Donc, moi, je pose une question extrêmement simple. Je ne suis pas le seul à la poser. Qu'est-ce qui est pertinent pour le rapport à Dieu ? Est-ce que c'est de démontrer son existence ou le rapport, disons, par l'éthique, la bonté, l'amour, la charité, comme vous voulez l'appeler ? Bon, là, ça dépend si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, si vous êtes musulman, si vous n'êtes rien du tout. Ça, c'est votre affaire. Mais je veux dire, il ne va pas du tout de soi que la médiation entre Dieu et nous passe par la question de son existence. Ce n'est pas tombé du ciel du tout. Ce qui est tombé du ciel, pour les chrétiens, c'est tout autre chose. C'est ce que je viens de dire.
Oui, c'est pour ça que quand vous parlez effectivement d'Augustin, vous dites que sa grande modernité, sa posture, ce n'est pas de parler de Dieu, mais de parler à Dieu. Donc d'être dans une posture de confession et non pas dans une posture de démonstration.
Absolument.
Voilà.
Mais ça, c'est un des traits de génie des confessions. Mon livre n'est pas seulement sur les confessions, il est surtout Saint-Augustin, mais à partir de la posture des confessions. Et d'ailleurs, c'est un critère intéressant quand on lit de la théologie, parce qu'il y a des théologiens qui parlent sur Dieu. On peut dire une grande partie de la théologie, c'est des traités de Dieu un ou de Dieu trine, de la création, de la rédemption, de Jésus-Christ, etc. C'est intéressant de voir que la littérature spirituelle naît et se développe au même moment où on commence à faire systématiquement des traités sur Dieu. Pour compenser, si je puis dire. Et la littérature spirituelle, qu'est-ce que c'est la littérature spirituelle ? C'est de la théologie. C'est de la théologie, on dit, mais c'est de la prière. Non, c'est de la théologie. Mais c'est de la théologie qui part, qui garde, de manière souvent peut-être insuffisante, imprécise, c'est autre chose, qui garde la posture de parler à. Et Saint-Augustin est remarquable parce qu'il articule très bien le parler à et le parler de. Quand on lit de la théologie, même contemporaine, on est très frappé à quel point le parler à n'est pas la posture méthodologique des théologiens.
C'est
très impressionnant.
Oui.
Et avant Saint-Augustin, chez les pères grecs, ce n'est pas la posture majoritaire. Il y a toujours de grandes exceptions, naturellement. La théologie monastique, etc. Bon, bien sûr, bien entendu. Mais je veux dire, ce n'est pas seulement la philosophie qui a eu tendance à considérer Dieu comme l'objet du discours. C'est la théologie elle-même. Il y a des faux problèmes sur l'hellénisation de la foi chrétienne par la théologie des pères, etc. Ça, c'est une plaisanterie. Bien entendu qu'il y a eu l'hellénisation, mais la question est de savoir comment on conquiert celui qui vous conquiert. Donc évidemment, les pères de l'Église, c'est pas naïf, ils ont déconstruit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait déconstruire dans la philosophie grecque païenne. Bien entendu, ils ont fait leur travail. Non, le problème, c'est de savoir si, à un niveau d'opération plus radical, on modifie les dispositions, j'allais dire, méthodologiques fondamentales. Mmh. Ça, tout le monde ne l'a pas fait. Ça, c'est une vraie question.
Mais est-ce que, d'une certaine façon, la question centrale, que l'on cherche depuis le début de votre travail, ce n'est pas de réconcilier le Dieu des philosophes, d'une part, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la distinction, comme quoi, effectivement, il y aurait un fossé entre les deux. Est-ce que votre travail à vous, ce n'est pas, d'une certaine façon, de réconcilier les deux?
Et écoutez, je suis frappé par cette question parce que c'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire, j'ai commencé mon travail dans l'idéaliste, dans Dieu sans lettres, par l'assomption, dans les travaux d'histoire de la philosophie aussi, par l'assomption brutale de la distinction entre les deux. Et j'en suis venu maintenant à me demander si ce que je n'essaie pas de faire, ne serait pas au contraire de rétablir la continuité. C'est très curieux parce que je suis en train de travailler en ce moment sur un texte qui n'est pas très élaboré encore. J'espère que je pourrai l'élaborer plus sur la distinction entre philosophie et théologie, dont j'ai constaté qu'elle est récente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théologiens qui ne considéraient pas qu'ils étaient des théologiens. C'est Saint-Augustin, mais parmi les pères grecs, la distinction entre la théologie et la philosophie leur est tout à fait étrangère. Alors, il y a une date de naissance qui doit se trouver, comme toujours, quelque part entre le XIe et le XIIIe siècle. Ça se passe là. Et puis après, tout le monde l'a sacralisé, cette distinction. Alors qu'elle suppose, une définition très particulière de la philosophie, que la philosophie étant peu développée à un savoir transcendantal, c'est-à-dire un savoir a priori, qui étant a priori s'impose à toutes les autres sciences, que la théologie est une science parmi les autres, que donc les limites de la possibilité définie par la fonction transcendantale de la philosophie s'appliquent à la théologie, etc., etc. C'est à l'intérieur seulement de cela que vous avez la distinction entre la nature, la surnature, le possible et l'impossible, le cours ordonné de la nature, les miracles, etc., etc. La liberté, la grâce, la raison suffisante et les exceptions à la raison suffisante. Toutes ces oppositions que tout le monde spontanément admet. La foi, c'est raison que la raison ne connaît pas, pourrait-on adapter Pascal ainsi. Bon. Toutes ces oppositions, elles ont un socle, qui est le statut transcendantal de la philosophie, c'est-à-dire des catégories de l'être. Mais ça, ce statut transcendantal, il n'est pas éternel.
Oui, ce qui veut dire deux choses.
Donc,
oui.
Ça veut dire que, avant de vouloir, il faut faire très attention à ce dont on parle. Moi, je suis historien de la philosophie. Je fais très attention quand j'emploie un concept. Je dis date de naissance. D'où ça vient? Et sur ce point, distinction théologie-philosophie, distinction naturelle-surnaturelle, distinction entre le Dieu de la foi et le Dieu de la raison. Il faut faire très attention.
Oui, donc ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, votre retour à Augustin, c'est d'une certaine façon un retour, un moment de la pensée où cette distinction philosophie, théologie et tout le reste ne veut pas dire grand-chose, ou ça n'existe pas.
N'est pas utile.
Et en plus, vous dites au début dans votre introduction qu'il n'est ni philosophe, ni théologien, qu'il est autre chose. Quoi. Voilà, première chose. Et deuxièmement, donc vous avez toujours considéré que le philosophe a besoin de l'éclairage de la théologie pour comprendre les enjeux de la philosophie, et que la philosophie, elle, est nécessaire à quoi? La théologie ou
non,
Dieu
mais,
ou...
Écoutez, justement, je ne vais pas prendre cette distinction, je ne vais pas appliquer moi-même la distinction que je questionne, théologie-philosophie. Je l'ai utilisée comme allant de soi pendant longtemps, maintenant, je ne le ferai plus autant. Ce que je dirais plutôt, c'est que je suis convaincu de l'unité de la raison. Il n'y a qu'une raison pour tout le monde. Je suis porté, en tant qu'historien de la philosophie, à constater les variations de la rationalité, des épistémés, comme on dit mal, s'il faudrait le mettre au pluriel, des figures de la rationalité, que donc, quand une figure de la rationalité déclare que le reste est irrationnel, je suis sûr que c'est une figure en crise, étroite, que c'est faux, que le problème de la rationalité, c'est qu'elle se décline de manière suffisamment souple et large pour englober un champ plus vaste et rendre rationnel ce qui ne l'était pas. Une philosophie se juge à ça. Une philosophie se juge à, est inversement considérable au domaine qu'elle exclut de la rationalité. Plus elle exclut de la rationalité, moins elle est forte. Ce qui permet de porter, c'est un assez bon critère. Vous voyez, quand vous avez des philosophies qui vous disent tout ça, c'est pas rationnel, bon, bah, ça veut dire que c'est une toute petite philosophie. Une grande philosophie, elle couvre quand même. Elle fait de la donation de sens, de la Sinngebung, très largement. C'est pour ça que je préfère actuellement la phénoménologie, qui est capable de mettre de la rationalité là où les autres n'en voient pas. Ça, c'est un premier point. Et donc, si la théologie n'a pas des opérations compréhensibles par les philosophes, c'est qu'elle ne fait pas son travail correctement. Et si les philosophes disent qu'a priori, puisque c'est du théologique, c'est donc hors des limites de la rationalité, ils ne font pas leur travail correctement non plus. Voilà ce dont je suis absolument convaincu. D'ailleurs, tout le monde admettrait ça, qu'un philosophe qui dit la musique, c'est en dehors de la philosophie, ça, j'ai rien à dire, ça ne me concerne pas, ou qui dit ça du phénomène érotique ou de la peinture, tout le monde va dire c'est quand même un imbécile. Bon, ben, s'il dit que la question de Dieu ne le concerne pas, c'est quand même triste pour lui. C'est comme, je veux dire, c'est presque au niveau de quelqu'un qui dit, vous savez, moi, je ne bois jamais d'alcool. Monsieur, c'est pas de l'alcool, c'est un Pomerol 84. Bon, si pour lui, un Chambol Musigny 64, c'est de l'alcool, on peut rien pour lui.
Donc vous dites Dieu est un grand cru. Voilà. Donc
il faut, ah ben oui, oui.
Donc la question.
Oui, oui. Dieu est un grand cru. Voilà, jouons sur les mots. Et voilà, absolument. Dieu est un grand cru et ça a un prix et il faut apprendre. Et si vous trouvez que c'est pas bon, d'abord essayez. Mmh. Et puis ensuite, si vous trouvez que c'est pas bon, c'est peut-être votre goût qui est à réformer. C'est peut-être pas le grand cru qui a tort. Mmh. Si vous trouvez Mozart mauvais, c'est peut-être vous qui avez tort, pas Mozart.
Oui, donc on pourrait conclure cette partie sur l'idée effectivement que votre projet, donc, c'est bien cette réconciliation entre ce dieu des philosophes qui a connu toutes les contaminations dont nous avons parlé, et puis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour faire en sorte que la reconnaissance de cette question-là, ou de cette interrogation-là, ou de cette question de Dieu, soit prise en compte comme étant une question importante, significative, pour tout un chacun.
Oui, je pense d'ailleurs que s'il y a un dialogue des religions, il devrait servir à ça.
Jean-Luc Marion, merci pour cet entretien. Nous arrivons à son terme. Malheureusement, sans doute, reviendrez-vous un jour pour développer un peu plus tous les aspects que nous n'avons pas pu aborder. Je recommande à tous nos auditeurs votre dernier livre, donc « Au-delà de soi, l'approche de Saint-Augustin ». Et je précise, parce que c'est effectivement, nous sommes dans des entretiens qui anticipent un tout petit peu votre réception officielle à l'Académie française, qui se fera le 17 décembre 2009. Alors je signale aussi à nos auditeurs que nous allons faire bientôt avec Jean-Luc Marion un entretien qui sera disponible directement sur Canal Académie sur les questions de la laïcité, considérant effectivement, comme nous l'avons dit, que Jean-Luc Marion a été un proche de Jean-Marie Lustiger et que donc il est au cœur de ces problématiques du politique, du sociétal, du religieux et donc de laïcité. Voilà. Donc j'invite nos auditeurs à nous retrouver sur Canal Académie pour cet autre entretien. D'une part, j'invite les mêmes auditeurs à lire, parce que c'est quand même là l'essentiel, l'œuvre de Jean-Luc Marion et en particulier donc ce livre, ce dernier livre sur Saint-Augustin, et aussi à nous retrouver tous le 17 décembre 2009 autour de Jean-Luc Marion quand celui-ci sera reçu à l'Académie française au siège même de Jean-Marie Lustiger. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.